Chapitre 34. C'est aussi son blog qui fut à l'origine du retour de Blaine dans sa vie. Au congrès Blogging While Brown, à Washington, pendant la journée d'accueil des participants, dans le hall de l'hôtel bondé d'une foule de gens qui se saluaient d'une voix sonore, elle parlait avec une blogueuse spécialiste du maquillage, une Mexicaine-américaine mince, aux paupières fluorescentes. Quand elle leva les yeux et resta figée sur place, tremblante. À quelques mètres, au milieu d'un petit cercle, se tenait Blaine. Il n'avait pas changé, à l'exception de ses lunettes cerclées de noir. Il était tel que dans son souvenir à bord du train. Grand, les membres souples. La blogueuse maquilleuse parlait des sociétés de cosmétiques qui envoyaient des produits gratuits à Bella Chicana et du problème éthique qui en découlait. Ifemelu hochait la tête. Mais elle n'était consciente que de la présence de Blaine, qui s'écartait de son groupe et se dirigeait vers elle. « Salut !» dit-il en fixant son badge. « C'est donc vous la noire non-américaine ? J'aime beaucoup votre blog. »«
Merci !»
dit-elle. Il ne se souvenait pas d'elle. Mais pourquoi l'aurait-il reconnue ? Leur rencontre dans le train était si lointaine que ni l'un ni l'autre ne savait alors ce que le mot « blog » signifiait. Il s'amuserait sans doute de savoir à quel point elle l'avait idéalisé, qu'il était devenu un être fait non pas de chair, mais de petits cristaux de perfection, l'Américain qu'elle n'aurait jamais. Il se tourna pour dire bonjour à la blogueuse maquilleuse, et elle vit à son badge qu'il animait un blog consacré à « la rencontre du monde universitaire et de la culture populaire ». Il revint à elle. « Êtes-vous toujours une adepte des centres commerciaux du Connecticut ?» parce que je continue de cultiver mon propre coton. » Elle eut le souffle coupé, puis partit d'un grand rire, un rire étourdissant, euphorique, parce que sa vie était devenue un film enchanteur dans lequel les personnages finissaient par se retrouver.
« Vous vous souvenez ?»«
Je vous observais depuis l'autre extrémité de la salle. Je suis resté interdit quand je vous ai vu. »
« Oh mon Dieu, c'était il y a combien de temps ? 10 ans ?»«
À peu près. 8 ?» Vous ne m'avez jamais rappelé. J'étais avec quelqu'un, ça ne marchait pas très bien. Mais nous sommes restés ensemble plus longtemps qu'il n'aurait fallu. Il se tut, avec une expression qu'elle apprendrait à connaître, un plissement des yeux discret qui révélait toute la noblesse de son caractère. S'ensuivirent des emails et des conversations téléphoniques entre Baltimore et New Haven, des commentaires espiègles postés sur leurs blogs respectifs, un flirt poussé au téléphone en fin de soirée, jusqu'à ce jour d'hiver où il apparut sur le pas de sa porte, les mains enfoncées dans les poches de son caban gris foncé et son col saupoudré de neige comme d'une poussière magique. Elle préparait du riz à la noix de coco, emplissant l'appartement d'une forte odeur d'épices, une bouteille de Merlot bon marché sur le comptoir, avec Nina Simone à plein volume sur sa chaîne. La chanson « Don't let me be misunderstood » les entraîna, quelques minutes seulement après son arrivée, sur le pont qui passait de l'amitié amoureuse à l'amour. Après, il se souleva sur un coude pour la regarder. Il y avait quelque chose de fluide, de quasiment androgyne dans son corps mince, et elle se souvint qu'il lui avait confié qu'il pratiquait le yoga. Peut-être pouvait-il se tenir sur la tête, se contorsionner en d'invraisemblables positions. Quand elle mélangea le riz, désormais froid, à la sauce à la noix de coco, elle lui avoua que faire la cuisine l'ennuyait. Elle avait acheté ses épices la veille et fait la cuisine parce qu'il venait la voir, s'imaginant avec du gingembre sur les lèvres, des traces de curry jaune, qu'il aurait léché sur son corps des feuilles de laurier écrasées sous eux. Mais il s'était montré raisonnable, s'était embrassé dans le salon avant qu'elle l'entraîne dans sa chambre. « Nous aurions dû faire les choses de manière moins prévisible, » dit-elle. Il rit. «
Comme j'aime faire la cuisine, il y aura beaucoup d'occasions imprévisibles. »
Mais elle savait qu'il n'était pas homme à agir de manière imprévisible, pas avec sa façon de mettre son préservatif avec une lente et froide concentration. Plus tard, quand elle eut connaissance des lettres qu'il avait écrites au Congrès à propos du Darfour, des adolescents auxquels il donnait des cours de soutien au lycée de Dixwell, de son travail bénévole à l'organisation d'aide aux sans-abri, elle le considéra comme une personne qui possédait un tronc d'humanité en guise de colonne vertébrale.
tout se passa comme si, grâce à leur rencontre dans le train des années plus tôt, ils pouvaient franchir plusieurs étapes à la fois, ignorer plusieurs inconnus et se glisser dans une intimité immédiate. Après sa première visite, elle repartit à New Haven avec lui. Pendant des semaines cet hiver-là, des semaines froides et ensoleillées, New Haven sembla illuminé de l'intérieur. Une couche de neige gelée s'accrochait aux buissons et un sentiment d'allégresse régnait dans un monde qui semblait n'appartenir qu'à eux seuls. Ils allaient à pied jusqu'au marchand de falafel de Howe Street, où ils mangeaient de l'houmous et restaient assis dans un coin sombre à parler pendant des heures, avant d'en sortir la bouche piquante d'ail. Ou elle lui donnait rendez-vous à la bibliothèque après ses cours et il buvait un chocolat trop riche à la cafétéria, mangeait des croissants au blé complet trop granuleux, son paquet de livres sur la table. Il faisait cuire des légumes bio et des graines dont elle ne pouvait prononcer le nom, boulgour, quinoa, nettoyant la moindre tache, une éclaboussure de sauce tomate, une goutte d'eau. Il l'effrayait en lui parlant des produits chimiques que l'on donnait aux poulets pour accélérer leur croissance et de ceux qui assuraient aux fruits une peau parfaite. Pourquoi pensait-elle que les gens mouraient du cancer? Avant de manger une pomme, elle la lavait donc à l'eau du robinet, bien que Blaine n'achetât que des fruits biologiques. Il lui apprit quelles étaient les graines riches en protéines, les légumes qui contenaient du carotène, les fruits trop sucrés. Il savait tout sur tout. Elle en était impressionnée, fière, et en même temps un peu rebutée. Les petits fêtes domestiques en sa compagnie, dans son appartement au 20e étage d'un immeuble moderne, près du campus, devenaient lourdes de signification. La manière dont il regardait Ifemelu s'hydrater la peau avec du beurre de cacao après sa douche du soir, le sifflement que faisait le lave-vaisselle quand il démarrait. Et elle imaginait un berceau dans la chambre, avec un bébé, et Blaine mixant avec soin des fruits bio pour l'enfant. Il serait un père parfait, cet homme plein de principes. « Je ne peux pas manger de tempeh. Je ne comprends pas que tu aimes ça », lui dit-elle.
« Je n'aime pas ça. »
« Alors pourquoi en manges-tu ? » « C'est bon pour moi. » Il courait tous les matins et utilisait du fil dentaire le soir. C'était tellement américain, ce fil dentaire, ce passage d'un fil entre les dents, inélégant et fonctionnel. « Tu devrais en faire autant tous les jours », lui dit Blaine. Et elle s'y mit, comme elle adopta certaines de ses pratiques. Aller à la gym, consommer davantage de protéines que de glucides, et elle le fit avec une sorte de satisfaction reconnaissante parce que ses pratiques l'amélioraient. Il était semblable à un stimulant salutaire. Avec lui, elle ne pouvait qu'atteindre un niveau supérieur de santé. La meilleure amie de Blaine, Araminta, vint lui rendre visite et embrassa chaleureusement Ifemelu, comme si elle s'était déjà rencontrée. Blaine n'a pas eu d'amie sérieuse depuis qu'il a rompu avec Paula. Et maintenant, il est avec une sœur chocolat par-dessus le marché. Nous faisons des progrès.
Mint, arrête,
dit Blaine, mais il souriait. Que sa meilleure amie soit une femme, une architecte avec de longues extensions, portant des hauts talons, un jean étroit et des lentilles de contact de couleur, disait de lui quelque chose qui plaisait à Ifemelu. Blaine et moi avons grandi ensemble. Au lycée, nous étions les seuls noirs de la classe. Tous nos amis voulaient que nous sortions ensemble. Tu sais comment les gens pensent que deux gosses noirs doivent obligatoirement sortir ensemble. Mais il n'était pas mon type, dit Araminta.
Tu parles, dit Blaine.
Ifemelu, tu n'imagines pas à quel point je suis heureuse que tu ne sois pas dans l'enseignement. As-tu entendu ses amis parler? Rien n'est simple. Chaque chose a forcément un double sens. C'est ridicule. L'autre jour, Marcy a raconté que certaines noires sont grosses parce que leurs corps sont le site d'une résistance anti-esclavage. Oui, ok. Si les hamburgers et les sodas représentent la résistance à l'esclavage, personne n'est dupe de ta pose anti-intellectuelle. Miss Drinks au Harvard Club, dit Blaine. Allons, de bonnes études n'impliquent pas nécessairement de faire de notre pauvre monde quelque chose qu'il faut à tout prix expliquer. Même Shan se moque de votre clique. Elle vous imite formidablement, Grace et toi. Formation conforme aux règles et topographies de la conscience spatiale et historique. Araminta se tourna vers Ifemelu. Tu n'as pas rencontré sa sœur Shan?
Non.
Un moment plus tard, pendant que Blaine était dans sa chambre, Araminta dit « Shan est un personnage intéressant. Ne la prends pas trop au sérieux quand tu la verras. »
« Que veux-tu dire ?»«
Elle est formidable, très séduisante. Mais si tu as l'impression qu'elle t'ignore ou je ne sais quoi, ce n'est pas dirigé contre toi. Elle est juste comme ça. »
Elle baissa la voix pour ajouter « Blaine est quelqu'un de bien, quelqu'un de vraiment bien. »
« Je sais. » Ifemelu perçut dans les paroles d'Araminta une sorte d'avertissement ou une prière. Au bout d'un mois, Blaine lui demanda de venir s'installer chez lui, mais elle attendit une année, même si elle passait alors la plus grande partie de son temps à New Haven, avait un laissez-passer pour la salle de sport de Yale en tant que compagne d'un professeur et rédigeait son blog chez lui. Au début, excitée par l'intérêt qu'il lui montrait, honorée par son intelligence, elle le laissa lire les posts avant de les mettre en ligne. Elle ne lui demanda pas de les corriger, mais peu à peu, elle les modifia, ajoutant et retranchant en fonction de ce qu'il lui disait. Puis elle commença à se rebeller. Ses posts devenaient trop intellectuels, ressemblaient trop à Blaine. Elle en avait écrit un sur les quartiers déshérités. Pourquoi les parties les plus pauvres, les plus déshéritées des villes américaines, sont-elles peuplées de Noirs américains ? Et il lui conseilla d'y inclure des détails sur la politique du gouvernement et le redécoupage administratif. Ce qu'elle fit, mais retira une fois qu'elle l'eut relu.
« Je ne veux pas expliquer, je veux observer », dit-elle.
« Souviens-toi que les gens ne te lisent pas pour se distraire. Ils lisent un commentaire culturel. C'est une vraie responsabilité. Il y a des jeunes qui écrivent des essais sur ton blog à l'université », dit-il. Je ne dis pas que tu dois paraître intellectuelle ou ennuyeuse. Conserve ton style, mais ajoute plus de substance.
Il y a suffisamment de substance ?
Dit-elle d'un ton irrité, agacée à la pensée qu'il avait raison.
Tu es paresseuse, Ifem.
Il utilisait souvent le mot paresseux pour qualifier ses étudiants qui ne remettaient pas leur travail à temps, les célébrités noires qui n'étaient pas engagées politiquement, les idées qui n'étaient pas conformes aux siennes. Elle avait parfois l'impression d'être son élève. Quand il flânait dans les musées, il s'attardait devant des tableaux abstraits qu'elle trouvait ennuyeux et elle était attirée par des sculptures audacieuses ou des peintures naturalistes, voyant dans son petit sourire qu'il était déçu de l'avoir encore fermée à son influence. Quand il mettait un disque de sa collection complète de John Coltrane, il l'observait, s'attendant à la voir écouter avec ravissement. Et quand elle restait indifférente, il détournait rapidement le regard. Elle rédigea des posts sur deux romans qu'elle appréciait, d'Ann Petrie et de Gail Jones. Et Blaine dit « Il n'y a pas grand-chose de neuf là-dedans. » Il le dit doucement, comme s'il ne voulait pas la contrarier, mais devait le dire. Il avait des opinions arrêtées, tellement réfléchies et ancrées dans son esprit, qu'il semblait parfois surpris qu'elle, de son côté, ne soit pas arrivée aux mêmes conclusions. Elle se sentait souvent éloignée de ses certitudes, de tout ce qu'il connaissait, et elle était désireuse de rattraper son retard, fascinée par la conviction qu'il avait d'être dans le vrai. Un jour, comme ils allaient acheter un sandwich dans Elm Street, ils virent la grosse femme noire, habituée du campus. Toujours dans les parages du café, offrant une rose en plastique aux passants en demandant « Vous avez un peu de monnaie ?» Deux étudiants étaient en train de lui parler et l'un d'eux lui donna son gobelet de cappuccino. La femme eut l'air ravie. Elle renversa la tête en arrière et vida le gobelet.
« C'est dégoûtant, »
dit Blaine en passant devant elle.
« Je sais, »
dit Ifemelu, bien qu'elle ne comprît pas pourquoi il avait une telle réaction devant cette SDF et son cappuccino. Des semaines auparavant, une femme blanche âgée qui était derrière elle dans la queue à l'épicerie avait dit
« Vous avez de si beaux cheveux. Puis-je les toucher ?»
Et Ifemelu avait dit oui. La femme avait plongé les doigts dans sa coiffure afro. Elle avait vu Blaine se contracter et une veine battre à sa tempe.
« Comment as-tu pu la laisser faire ?»
avait-il ensuite demandé.
« Pourquoi pas ? Autrement, comment pourrait-elle avoir une idée de la sensation que donnent des cheveux comme les miens ? Elle ne connaît probablement aucun noir. »
C'est donc à toi d'être son cobaye ?
Avait demandé Blaine.
Il s'attendait à ce qu'elle éprouve des sentiments inconnus d'elle. Il y avait des choses qui existaient pour lui, qui étaient hors de sa portée. Avec ses amis proches, elle se sentait souvent vaguement perdue. Ils étaient plutôt jeunes, bien habillés et sûrs d'eux. Leurs phrases étaient remplies de « du genre » et de « au regard d'eux ». Ils se retrouvaient dans un bar tous les jeudis, et parfois l'un d'eux donnait un dîner, pendant lequel Ifemelu se bornait à écouter, parlait peu, et les regardait avec étonnement. Était-il sérieux quand il s'emportait à cause des légumes importés qui mûrissaient dans les camions? Il voulait éradiquer le travail des enfants en Afrique. Il refusait d'acheter des vêtements fabriqués par des ouvriers sous-payés en Asie. Il regardait le monde avec un sérieux lumineux, utopique, qui l'émouvait sans jamais la convaincre. En leur compagnie, Blaine bourdonnait de références qui ne lui étaient pas familières, et il lui semblait très loin, comme s'il leur appartenait. Puis quand il la regardait enfin, de son regard chaud et aimant, elle éprouvait une sorte de soulagement. Elle parla de Blaine à ses parents, leur dit qu'elle quittait Baltimore et allait s'installer à New Haven pour vivre avec lui. Elle aurait pu mentir, inventer un nouveau travail, ou dire simplement qu'elle avait envie de déménager. « Il s'appelle Blaine, » dit-elle. « Il est américain. » Elle entendit le symbolisme de ses paroles, parcourant des milliers de kilomètres jusqu'au Nigeria, et elle sut ce que ses parents comprendraient. Blaine et elle n'avaient pas parlé de mariage, mais le terrain sous ses pas semblait ferme. Elle voulait que ses parents le connaissent, sachent à quel point il était bon. Elle utilisait ce mot en le décrivant « bon ». « Un nègre américain ?» demanda son père, l'air perplexe. Ifemelu éclata de rire. « Papa, plus personne ne dit nègre !»« Mais pourquoi un nègre? Les Nigérians sont-ils rares en Amérique ?» Elle ignora la question, sans cesser de rire, et le pria de lui passer sa mère. Ne pas lui répondre, lui dire qu'elle allait vivre avec un homme sans être mariée, n'était possible que parce qu'elle était en Amérique. Les règles avaient changé, tombées dans les profondeurs de l'éloignement. Sa mère demanda « Il est chrétien ?»« Non, c'est un adorateur du diable. »«
Jésus Tout-Puissant !»
s'écria sa mère. « Maman, oui, il est chrétien. »
« Alors pas de problème, » répondit sa mère. « Quand viendra-t-il se présenter? Tu peux t'arranger pour que nous fassions tout en même temps. Les visites, le prix de la mariée, l'offre du vin. Ce sera moins cher et il n'aura pas besoin de faire des allées et venues. L'Amérique est loin. »
« Maman, je t'en prie, rien ne presse. » Après avoir raccroché, encore amusée, elle décida de changer le titre de son blog en « Race Tinth » ou « Observations diverses sur les Noirs américains », ce qu'on appelait jadis les nègres, par une noire non américaine. Poste à pourvoir en Amérique. Arbitre national de « Qui est raciste ?» En Amérique, le racisme existe, mais les racistes ont disparu. Les racistes appartiennent au passé. Les racistes sont de méchants blancs aux lèvres minces dans les films qui traitent de l'époque des droits civiques. Le problème est là. Les manifestations de racisme ont changé, mais pas le langage. Par exemple, si vous n'avez pas lynché quelqu'un, on ne peut pas vous qualifier de raciste. Si vous n'êtes pas un monstre assoiffé de sang, on ne peut pas vous qualifier de raciste. Quelqu'un devrait être chargé de dire que les racistes ne sont pas des monstres. Ce sont des gens qui ont une famille aimante, des gens ordinaires qui payent leurs impôts. Quelqu'un devrait avoir pour mission de décider qui est raciste et qui ne l'est pas. À moins que le moment soit venu d'éliminer le mot « raciste », de trouver quelque chose de nouveau, comme « syndrome de trouble racial ». Et on pourrait avoir plusieurs catégories pour ceux qui en sont affectés. Bénin, moyen et grave.